Jusqu'à 20h, c'est votre grand journal du soir sur Europe 1, Mathieu Béliard.
La bataille des municipales, c'est parti, les enjeux et nouveaux rapports de force du scrutin. Mes invités autour de la table, Aurore Berger, députée La République En Marche des Yvelines, porte-parole d'En Marche, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir. Hélène Jouan, éditorialiste au service politique de la rédaction, bonsoir Hélène.
Bonsoir.
Merci d'être autour de la table également à vous, Stéphane Zumsteg, directeur du département politique opinion chez Ipsos. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir à tous les trois. Vous connaissez Benjamin Muller ? Hélène, oui ?
Oui.
Oui. Aurore Berger, Stéphane Zumsteg, un peu moins, on l'écoute.
Ça va, Benjamin ? Bonsoir à tous, ça va très bien.
Bon, tous les jours, vous voyez avec nous comment les médias traitent un sujet de l'actualité. Aujourd'hui, mon cher Benjamin, le début des épreuves du bac,
et oui,
en particulier la philo.
Et oui, sujet génial qui depuis toujours inspire beaucoup les journalistes pleins d'enthousiasme pour en parler comme ce matin sur France Info.
Posez vos crayons, rendez vos copies, les épreuves de français et de philosophie sont terminées.
Ça y est, c'est fini, c'est terminé, voilà l'enthousiasme dont je vous parlais. Donc toute la journée, on a pu entendre de jeunes candidats pour savoir comment ça s'était passé. On rappelle que la philo, ça dure potentiellement 4 heures, mais il y a toujours des génies pour sortir bien plus tôt.
Ryan, en terminale S, il est sorti à 10 heures, mais pas de quoi l'inquiéter.
Ça va, il était un peu difficile, mais comme j'ai déjà redoublé une fois l'année dernière, je trouve qu'il était plus facile que celui de l'année dernière.
Ah non, Ryan, j'ai un peu l'impression d'être lui. Ryan, si t'as déjà redoublé, pourquoi t'es pas resté jusqu'au bout ?
T'as choisi quoi, toi ?
C'était reconnaître ses devoirs et se renoncer à sa liberté. Bah, en gros, j'ai fait une première partie qui disait comme quoi que reconnaître ses devoirs, c'est renoncer à sa liberté.
Une première partie qui disait que comme quoi que reconnaître ses devoirs, c'est renoncer à sa liberté. Vivement les épreuves d'oral, Brian. Voyons ce qu'a dit une autre candidate qui s'appelle Laura à cette même question.
Je crois que j'ai mis les devoirs, c'est renoncer à sa liberté. Après, j'ai mis que finalement non. Et pour la troisième partie, je me souviens plus parce que j'ai un peu bâclé la troisième partie, on va dire.
Et voilà l'avenir de la France. Elle est belle, la jeunesse. Sur BFM, ils ont eu une super idée, vraiment. Envoyer un reporter dans une salle de classe à 7h54 précise, c'est-à-dire 6 minutes avant le début. Imaginez qu'il est au milieu des élèves qui sont tous stressés. Voilà comment il les rassure, donc en direct à la télé.
Ça rigole un peu moins là, je peux vous dire, hein. Ça s'embrassait, ça rigolait, là ça moufte plus, hein. Il n'y a plus personne qui parle.
Alors, il faut voir les malins, les bolos de jeunes, les ados. J'adore ce reporter, en revanche, j'aurais détesté l'avoir dans ma classe le jour du bac.
On sent que t'es un peu plus stressé que ce matin, t'es moins confiance, ça se sent quand même.
Bah ouais, c'est vrai que là, l'ambiance n'est plus la même. Il y a des petits regards en mode... C'est compliqué.
Et là, c'est plus la même. Les petits regards en mode machin, c'est plus la même.
Il est horrible. Il est horrible. Allez, il faut partir, monsieur, ça va commencer. Sur CNews, ils ont invité l'historien Odon Vallée pour qu'il débriefe en direct les sujets. Exemple, le travail divise-t-il les hommes ?
Le travail divise-t-il les hommes ? Alors, le gros problème, c'est que le mot travail, ça vient un petit peu tripalium, c'est un peu le supplice hein, chez les Romains. Oui. Le travail a souvent été considéré comme quelque chose de négatif.
Ah ben voilà, Ryan et Laura, ils sont romains, c'est tout.
On peut répondre que l'oisiveté est la mère de tous les vices.
Alors ça, je suis pas du tout d'accord, mais bon, on ne m'a pas demandé mon avis. Le plus important de la journée, ça vraiment, ça m'a scotché, je l'ai appris sur le site Brut avec l'interview de l'historien Thomas Negaroff.
Tous les ans, on vous raconte une histoire qu'il y a un élève qui a eu 20 sur 20 parce qu'au sujet « Qu'est-ce que l'audace ?», il a répondu en une phrase « C'est ça ». Il a rendu sa copie et il a eu 20 sur 20.
Alors autour de la table, vous l'aviez tous entendu, Mathieu, bien sûr, on l'avait
personne
tous entendu.
Tenté, mais on l'a tous entendu.
Eh bien, Thomas Negaroff a enquêté, il a cassé le mythe.
Cette histoire, elle est fausse.
Et voilà comment tordre le cou d'une croyance populaire portée des générations d'ados. Cette scène date en fait d'un film. Sachez-le, Le Pion dans les années 70, mais en vrai, bah c'est pas vrai, ça n'a jamais existé.
Je suis même pas sûr qu'il y ait déjà eu un sujet.
Non, il n'y en a pas eu.
Ce que je regarde, c'est quand même un peu plus réfléchi les sujets.
C'est compliqué aujourd'hui. Hein.
Vous auriez pris quoi, vous, Benjamin ?
J'aurais rien pris du tout.
À quoi bon expliquer une œuvre d'art ? Seul ce qui peut s'échanger a-t-il de la valeur ?
L'œuvre d'art, c'est pas mal.
Les lois peuvent-elles faire notre bonheur ? J'en parlais avec Raphaël Enthoven tout au début de cette émission. C'est vrai que les sujets sont beaux.
Aurore Berger disait non à ça. Les lois.
Il y avait un sujet sur la morale et la politique aussi.
Oui. Vous auriez pris celui-là ?
Ah bah je sais pas, ça dépend dans quelle filière. Il y a encore une filière cette année. Moi, j'étais en ES.
Ah oui, et puis c'est fini les filières bientôt.
Ce sera fini en prochain.
Effectivement, mais ce sera l'objet d'un autre débat. Aurore Berger, Hélène Jouan et Stéphane Zumsteg sont autour de la table. Merci Benjamin Muller.
Europe 1.
La bataille des municipales est lancée. Je vous la pose à vous, électeurs, cette question au 39-21. Est-ce que le dégagisme va se poursuivre ? 9 mois avant les municipales, finalement d'ici à 2022, on sera en campagne électorale permanente. Vous intervenez si vous le souhaitez, on est ensemble jusqu'à 20h.
Vous invité Mathieu Béliard sur Europe 1 jusqu'à 20h. Aurore Berger, députée La République En Marche des Yvelines, porte-parole d'En Marche. Hélène Jouan, éditorialiste politique à la rédaction d'Europe 1. Et Stéphane Zumsteck, directeur du département politique opinion chez Ipsos.
Stéphane Zumsteck, tiens, pour démarrer, dans 9 mois, nous votons à nouveau les élections municipales. Ça va arriver très vite. On sort tout juste des européennes. Ma première question sera hyper simple. Il ne faut pas penser que les résultats des municipales seront un calque des élections européennes.
Ah non, certainement pas. Ce que l'on sait déjà avec quasi certitude, c'est que la recomposition du paysage politique va s'amplifier encore dans les 9 mois qui viennent. D'ailleurs, on l'a bien vu avec l'appel de plusieurs dizaines de maires de droite et de centre-droit à soutenir, en tout cas à souhaiter la réussite du président de la République et du gouvernement. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que le dégagisme ne va pas forcément s'amplifier. Ça reste des élections municipales. Il y a une équation locale qui est forte, qui est très forte. Ce sera plus compliqué cette fois-ci. C'est pas un scrutin national. Il y aura certes une atomisation de l'offre politique, mais on va surtout assister à une multiplicité des configurations d'alliances au premier tour et surtout au second tour. Ce qui fait que finalement, au soir du second tour de ces élections municipales, on n'y est pas encore évidemment, ce sera très compliqué d'en tirer un bilan parce que plusieurs forces s'arrogeront la victoire. Je prends un exemple, si un maire de droite aujourd'hui décide de s'allier avec La République En Marche, les deux camps finalement diront qu'ils ont gagné une ville. Donc il y a en gros un peu plus de 900 villes de plus de 15 000 habitants en France. Je suis sûr qu'il y aura 1500 victoires à peu près. C'est ça le problème.
Tout le monde est content finalement.
Non, je suis d'accord. C'est-à-dire, je pense que le système va continuer à turbuler effectivement et il va y avoir une recomposition qui va s'accroître, qui va s'amplifier. Vous disiez, il n'y aura pas forcément de Big Bang. Parce que quand on parle d'équation personnelle du maire, c'est quand même très fort ça. C'est-à-dire que la personnalité du maire. On a vu lors du grand débat national à quel point les Français étaient attachés à la figure du maire et parfois à leur maire en particulier. Alors certes, il y aura des dégagés parce que c'est ça l'alternance et parce qu'il y a des maires qui sont usés, parce qu'il y aura des nouvelles configurations effectivement d'alliances entre La République En Marche et LR d'un côté, sans doute, mais aussi quelques maires issus de la gauche, du Parti Socialiste, du Parti Radical, etc. Mais il n'y aura pas, et on regardera comme chaque soir au second tour, on regardera finalement d'abord les grandes villes. Est-ce que Paris a basculé ou pas? Est-ce que le PS, qui a encore quelques grandes villes, évidemment, et c'est son dernier... voilà, c'est ce qui reste au PS aujourd'hui, c'est que ça reste un parti d'élus. Il n'y a plus de militants, il n'y a plus beaucoup d'électeurs, mais il y a encore des élus. Et donc, Lille, Nantes, Rennes, Paris, si le PS perd ça, et selon qui gagne, évidemment,
là,
ces grandes villes,
pour le PS,
eh ben on dira La République En Marche a réussi son pari, on dira LR a réussi à résister, etc. Mais ce sera effectivement des résultats qui seront plus difficilement lisibles quand même que lors d'un scrutin national, comme ça a été le cas évidemment aux européennes, où on voit qui arrive en premier, en second, en troisième, etc., et qui est complètement dans les choux.
Alors, Aurore Berger, vous ne me le direz pas comme ça, mais on a observé ces plus de deux dernières années, La République En Marche absorbait ce qu'était le Parti Socialiste, puis une partie de ce qu'étaient les Républicains. En revanche, ce qui vous manque, c'est un ancrage territorial, très clairement.
Alors, je ne sais pas si on a absorbé. De fait, c'est les électeurs qui ont migré et qui ont choisi un moment de quitter des partis politiques qui ont organisé notre vie politique pendant 30 ou 40 années aux européennes. Le score cumulé DLR et du Parti Socialiste, c'est moins de 15%, ce qui était inimaginable il y a encore 2 ans. Après, ce qui est certain, c'est que nous, on n'existait pas au moment des élections municipales. Et donc, tout cet ancrage local, il est évidemment à construire. Il y a beaucoup de gens, vous savez, au moment des législatives, qui disaient qu'on était des candidats virtuels, des candidats Internet, et qu'on n'avait aucune capacité à mener campagne, à pouvoir gagner. Une fois qu'on a gagné, on nous a dit qu'on n'aurait aucune capacité à rester dans le paysage politique. On était finalement une gentille parenthèse et que la vraie politique allait reprendre ses droits. Et aujourd'hui, on nous dit qu'on sera dans l'incapacité d'avoir un ancrage et des candidats.
Ça, c'est une belle histoire, mais entre les deux, il y a aussi une petite période où on vous a reproché de ne pas avoir de connexion avec le terrain, les territoires, les régions.
Mais ça, c'est une fable. Moi, je me souviens du tout début, quand nous sommes devenus parlementaires, on nous a dit qu'on n'allait plus avoir aucun lien avec les territoires parce qu'on refusait le cumul des mandats. On peut avoir un lien avec son territoire et être très ancré dans son territoire sans sans pour autant être maire. Et on peut d'ailleurs continuer à rester, moi c'est mon cas, conseiller municipal ou conseiller communautaire par exemple. On peut pas être juste une fonction exécutive et maire. Puis on nous disait, comme vous allez plus avoir la réserve parlementaire, c'est-à-dire cette capacité discrétionnaire qu'un parlementaire avait à donner de l'argent public à des associations, à des mairies, bah, comme vous distribuerez plus d'argent, vous aurez plus de lien. Heureusement que le lien qu'on a avec les territoires, il n'est pas uniquement fonction du cumul des mandats ou fonction de l'argent public qu'on peut distribuer.
Sauf que ce lien, il vous a manqué quand même, et on l'a vu pendant la grande crise sociale des Gilets jaunes.
Mais il est à construire de manière très claire. Voilà, et ça, c'est notre enjeu.
C'est un enjeu pour vous aujourd'hui.
Aujourd'hui, on a à peu près 2000 élus locaux, La République en marche, et on a un objectif clair, c'est au moins avoir 10 000 élus locaux, La République en marche, à l'issue des élections municipales.
C'est l'objectif qui a été annoncé ce matin. Il est 19h36.
Europe 1.
Vous restez bien sur Europe 1, la bataille des municipales, c'est parti et nous en parlons ce soir jusqu'à 20h avec mes invités et avec vous peut-être au 39-21.
Votre grand journal du soir jusqu'à 20h avec Mathieu Béliard et avec vos invités autour de la table. Aurore Berger, députée de La République En Marche des Yvelines, porte-parole d'En Marche. Stéphane Zumsteg, directeur du département politique opinion chez Ipsos. Et Hélène Jouan, éditorialiste politique à Europe 1.
Dans les enseignements des européennes, et encore une fois, c'est ce que nous disions il y a quelques minutes, il ne faut pas confondre les élections européennes et les élections municipales. Mais voilà deux scrutins où ils sont plutôt forts d'ordinaire, les européennes et les municipales. Europe Écologie, les Verts. Est-ce que la troisième force politique du pays, c'est vraiment Yannick Jadot et Sévère, est-ce qu'ils peuvent confirmer dans 9 mois?
Ben, ça leur donne des ailes en tout cas, et ça leur donne du poids pour négocier vis-à-vis de leurs autres alliés de gauche. Parce qu'en général, aujourd'hui, il n'y a qu'une grande mairie qui est détenue par un écologiste, c'est Éric Piolle à Grenoble. Partout ailleurs, ils ont fait, alors parfois ils avaient des candidats au premier tour, mais ils ont fait alliance. Aujourd'hui, ils travaillent avec Anne Hidalgo à Paris. Sauf que là, il y a un candidat Europe Écologie Les Verts qui a été investi à Paris.
Qui n'est pas de ma famille, je tiens à le préciser. La question m'a été posée plusieurs fois ces deux dernières semaines.
Donc
c'est l'occasion de le dire.
Voilà, c'est pas de votre famille. On a même évoqué l'idée que Yannick Jadot aille à Paris. Bon, sauf qu'il vient quand même d'être élu sur la liste Europe Écologie Les Verts et il est parti à Strasbourg et à Bruxelles, donc ce serait assez malvenu. Mais ça leur donne évidemment un poids très important pour négocier parce qu'ils font le double, en gros, du Parti Socialiste. Et le Parti Socialiste, pourtant, a toutes les grandes villes que je citais tout à l'heure. Donc, c'est surtout que ça leur donne une capacité de nuisance, disent les socialistes, évidemment, quand on se place de leur point de vue, et une capacité d'être en force vis-à-vis de ceux qui souhaitent que le programme écologique dans les municipalités soit évidemment plus affirmé. Donc, on entendait Fabien Roussel il y a quelques instants avec Sonia Mabrouk sur cette antenne, qui lui-même ne sait pas trop bien à qui parler, parce que bon, le Parti communiste qui avait encore des bases locales jusqu'en 2014, mais qui les a quand même aujourd'hui beaucoup perdues, se demande aussi un petit peu avec qui il va pouvoir négocier. Donc c'est une gauche vraiment éclatée, avec de fait aujourd'hui Europe Écologie Les Verts plutôt en position de force.
Vous avez parlé d'autres alliés de gauche pour Europe Écologie Les Verts, et c'est vrai évidemment que ELV c'est à gauche depuis de longues années, sauf que Yannick Jadot a très clairement dit qu'au niveau européen il fallait pouvoir parler avec des libéraux, être une force centrale, si j'ose dire. Est-ce qu'on peut imaginer des listes, des rassemblements, des unions entre le parti présidentiel et les Verts?
Bah, déjà, en effet, la ligne d'Europe Écologie Les Verts a évolué sous l'influence de David Cormand et de Yannick Jadot, en disant eux-mêmes, en le revendiquant, que l'écologiste n'est ni de droite ni de gauche et qu'eux-mêmes refusaient d'être étiquetés à gauche pendant la campagne. La question est de savoir si ce sera toujours le cas au moment des municipales, si les élus locaux qui sont les leurs aujourd'hui seront dans cette même démarche et logique d'ouverture. Après, ce qui est certain, c'est que c'est non seulement ni de droite ni de gauche, mais ce n'est pas la propriété d'un seul parti politique. La question écologique est heureusement. Et vous avez des gens qui votent pour d'autres partis politiques et qui sont tout autant convaincus de la nécessité et de l'urgence de la question écologique. Après, est-ce qu'il pourrait y avoir des alliances? Oui, c'est possible.
Parce que ce matin, il y a eu clairement un mot d'ordre. Alors évidemment, rassemblement contre le Rassemblement National. Oui. Là, pour le coup, la ligne est très claire du côté de La République En Marche. Mais pour le reste des alliances de circonstances peuvent exister au-delà de la question du Rassemblement National.
Parce que, vous l'avez dit, les élections municipales, c'est une élection qui est complètement différente des élections nationales et que ça se construit projet par projet, ça se construit équipe par équipe pour savoir si on est en capacité d'avoir un projet qui tient la route quand il est présenté aux habitants et puis qui tient sur la durée, c'est 6 ans, une équipe municipale avec 15, 20, 30 ou plus de personnes qui doivent réussir à travailler ensemble et à élaborer ensemble des politiques publiques. Et donc, ça ne peut pas se décider juste au niveau national. Ce qui se décide au niveau national, c'est des principes, c'est la charte qu'on a publiée et c'est des lignes rouges en disant nous clairement qu'en effet, à chaque fois qu'il y avait un risque de rassemblement national, on prendrait nos responsabilités, quitte même à se désister.
Mais c'est aussi la faiblesse aujourd'hui de La République En Marche au niveau local. Vous le disiez, vous avez pour l'instant 2000 élus municipaux, vous visez 10 000, mais c'est cette faiblesse-là qui fait que la stratégie, forcément, de La République En Marche est diverse. C'est-à-dire que, de temps en temps, il faut faire le Bernard Lhermitte, c'est-à-dire aller s'installer sur la liste, enfin, se mettre avec un maire sortant dont on estime, effectivement, qu'il est en gros Macron-compatible. Et puis, parfois... on a des propres candidats qu'on peut investir et que vous avez investis. Il y en a quelques-uns qui ont été dévoilés ce matin par Stanislas Guérini.
19.
Et puis, de temps en temps, on met quelqu'un en sachant qu'il gagnera pas, mais pour bien montrer effectivement que le but, c'est de ne pas laisser le Rassemblement National gagner sans coup férir l'élection. C'est le cas Perpignan, où vous investissez
mais
également.
Moi, je crois aux chances de Romain Gros à Perpignan, et je suis pas sûre et heureusement que Perpignan soit condamné à voir Louis Alliot gagner à Perpignan.
Non, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, c'est la stratégie est très très diverse pour La République En Marche, mais c'est encore une fois la faiblesse de son implantation locale. Vous le disiez il y a deux
c'est
ans, La République En Marche
aussi.
N'existait pas. Donc il n'y a pas de... Enfin voilà, il faut... Elle est en train de se construire
ce qui se dégage
avec
aussi
cette stratégie. Et c'est pour ça que les alliances peuvent se faire avec des gens de droite, avec des gens de gauche, avec Europe Écologie... Pas forcément avec Europe Écologie Les Verts.
Pas avec des partis politiques.
Voilà,
avec
pas
des
avec
individus.
Un parti politique. Avec des gens, effectivement, qui à un moment donné, pour sauver leur poste, parfois... pour, par compatibilité de projet aussi, accepteront cette liste d'ouverture avec peut-être majorité présidentielle.
Bon, ce qui ressort de nos échanges, c'est qu'il y a a priori autant de scrutins que de scrutins. Hein, je me répète
000,
un petit peu, donc autant
000
d'enjeux, autant
plus
de possibilités, autant de combinaisons, Stéphane Zumsteig.
On s'oriente vers une jolie cacophonie, ça c'est sûr, ça c'est certain. Un des autres objectifs, pour compléter ce que vous disiez, Hélène, de La République En Marche, c'est indépendamment de trophées qu'elle pourrait éventuellement gagner, des villes comme Paris, des villes comme Lille, par exemple, ce sera aussi en aidant un certain nombre de maires ex-socialistes ou ex-républicains, finalement, à contraindre, à obliger ces barons locaux, une fois réélus, de soutenir le président de la République. Et ça aura évidemment du poids dans la perspective de la prochaine élection présidentielle de 2022.
Et avant, il y aura les sénatoriales en plus.
En plus.
En 2021.
Mais il y a
et
quand
ça,
même
c'est,
un enjeu
pas,
là-dessus.
Pas...
Oui, bah allons-y, justement.
Bien sûr qu'il y a un enjeu, parce qu'on a bien vu que la réforme constitutionnelle telle qu'elle avait été imaginée par le président de la République, aujourd'hui, elle est un peu repoussée au calendrier grec. Pardon. Tout ça parce que le Sénat, aujourd'hui, est encore aux mains
républicain
Gérard Larcher, avec une majorité à droite, et que le renouvellement du Sénat, donc qui est élu, vous savez, par un suffrage indirect,
par des grands électeurs,
par un scrutin
des
indirect,
territoires.
Exactement. Donc là, tous les élus municipaux que va gagner La République En Marche, d'où qu'ils viennent, évidemment, permettront au moment du renouvellement du Sénat, peut-être d'avoir une majorité pour La République En Marche. Au moins la majorité des 3/5.
C'est un enjeu dans l'enjeu.
Évidemment, il y a un enjeu qui est celui aussi du troisième tour des élections municipales, c'est les communautés de communes, les communautés d'agglomération. Alors les Français ne les identifient pas toujours, ce qui est d'ailleurs un vrai sujet démocratique. Ils ont l'impression que la décision s'est beaucoup éloignée d'eux, qu'il y a eu beaucoup de compétences qui sont parties un peu au-dessus. Mais donc ça veut dire que c'est aussi un enjeu démocratique que d'arriver à reconquérir ces territoires-là. Et évidemment, ensuite, l'ancrage local il est déterminant sur la composition du Sénat, parce que c'est vrai que le Sénat paraît aujourd'hui au regard de la recomposition politique, assez en décalage par rapport au vote des Français, avec une surreprésentation très claire des Républicains, parce que c'est assis sur des élections municipales qui datent de 2014.
19h46,
Europe 1.
Le débat qui continue, un dernier tour de table dans quelques secondes. À tout de suite sur Europe 1.
Mathieu Béliard sur Europe 1, Hélène Jouan, éditorialiste politique à Europe 1, Aurore Berger, députée La République En Marche des Yvelines, porte-parole d'En Marche, et Stéphane Zumsteig, directeur du département politique opinion chez Ipsos.
Un dernier mot, on va parler du Rassemblement National aussi avant la fin de cette émission, mais juste d'un mot, Stéphane Zumsteig, on a beaucoup parlé ces dernières semaines du clivage gauche-droite, de ce qu'il représente encore, de ce qu'il veut dire aussi dans l'électorat. Là, au niveau municipal, ça pèse moins le fait d'être de gauche ou de droite.
Ah oui, ça pèse bien sûr beaucoup moins. Je le disais tout à l'heure, il y a une équation personnelle très claire. Et puis là, il va y avoir de nouvelles configurations, de nouvelles alliances. On ne vote pas parce qu'on a le cœur à gauche ou parce qu'on a le cœur à droite aux élections municipales. On vote sur un bilan, même si évidemment le contexte national joue toujours. Il y a à chaque scrutin municipal, on assiste à des vagues de droite, des vagues bleues ou des vagues roses. Enfin, jusqu'à présent, en tout
l'effet
cas.
L'effet élection intermédiaire.
Mais l'équation personnelle, elle est évidemment très importante. Et aujourd'hui, quand on regarde un peu l'âge des élus de la promotion 2014, la plupart d'entre eux souhaitent se représenter. Donc évidemment, ça jouera beaucoup.
Est-ce que ça, c'est un point qui aide le parti présidentiel ou au contraire qui peut permettre de maintenir certains élus LR ou PS ?
Je pense que ça va aider le parti présidentiel à accélérer le ralliement d'une partie de ses élus de centre-gauche ou de centre-droite. Ça va être le grand retour, selon moi, ce qu'on appelait autrefois les divers droites ou les divers gauches. Il y aura très peu de candidats étiquetés LR ou très peu de candidats étiquetés PS, alors qu'avant, la quasi-totalité des candidats dans les grandes villes, en tout cas, avaient une investiture nationale et se réclamaient de ces partis de gouvernement. Ce ne sera plus le cas. Ce sera vraiment, je suis divers droite, je suis sans étiquette, je refuse...
Divers centre. Mais Gérard Collomb à Lyon, par exemple, a déjà dit qu'il ne partait pas avec l'étiquette En Marche.
Mais même Louis Alliot, pour le Rassemblement National, ne partira pas sous l'étiquette Rassemblement National. Tout le monde est à la recherche...
Au niveau local, on va aussi gommer les partis.
Bien sûr, c'était
autant que possible.
On l'a déjà vu il y a 5 ans et demi, on l'a déjà vu lors des scrutins précédents, mais cette tendance, elle s'accélère, cette nécessité de s'émanciper des états-majors nationaux.
36 000 communes, alors j'aurais dû regarder, pour le coup. Mais c'est pas le dernier chiffre, mais on sait que c'est autour de 35-36 000 communes, avec un Rassemblement National qui a choisi cette fois de moins faire dans la quantité, peut-être plus dans la qualité de ces listes. Ils ne seront pas partout.
Ils ne seront pas partout. Alors, ils n'étaient déjà pas partout en 2014, mais ils avaient quand même essayé d'investir énormément de candidats. Il y avait eu 600 têtes de liste, je crois, en 2014. Là, Marine Le Pen change de stratégie. Elle dit, on va plutôt faire... Elle appelle ça la stratégie de l'inondation, c'est-à-dire que là où ils sont implantés, ils ont gagné la dernière fois une dizaine de villes de plus de 9000 habitants, dans des régions très ciblées, alors évidemment beaucoup dans le sud-est, mais aussi dans le nord, se servir de ces points d'appui pour irriguer et essayer d'avoir des communes autour. Et puis, changement de stratégie aussi, parce que c'est d'ailleurs un petit peu un parallèle qu'on peut faire avec La République En Marche, elle a ouvert ses bras, elle l'a dit très clairement hier à La Rochelle, elle ouvre ses bras pas au parti Les Républicains, pour ne pas les nommer, elle ouvre ses bras éventuellement aux élus pour dire « Écoutez, vous, votre parti, il marche quand même pas terrible, mais venez, on peut faire des plateformes d'action commune. » Donc de la même façon, elle essaie de s'élargir et d'élargir son spectre électoral. Elle est très aiguillonnée évidemment par sa nièce Marion Maréchal Le Pen qui l'a poussée, donc Marine Le Pen sûrement ne veut pas être en reste sur ce type de stratégie. Et donc là, il y aura effectivement un ciblage dans le Nord, dans l'Est, en Occitanie et dans le Sud-Est, là où le RN, le Rassemblement National est quand même arrivé en tête dans 66 départements lors des dernières élections européennes.
Mais finalement, ce que je retiens aussi de ce que dit Hélène Jouan, c'est que vous avez presque la même stratégie à La République En Marche.
Alors, on n'a déjà pas du tout les mêmes valeurs, pas du tout le même projet. Quant à la stratégie, nous, on a toujours eu évidemment une stratégie d'ouverture pour une raison assez simple, c'est que pour venir à La République En Marche, vous venez bien de quelque part. Parce qu'on n'a que 3 ans d'existence et donc la logique, c'est que les électeurs ont voté pour d'autres gens. Avant, ils ont voté à droite, à gauche, sans devoir y voter plus, parce qu'ils n'avaient pas une offre politique qui pouvait correspondre à ce qu'ils attendaient. On a créé une offre politique qui est nouvelle, qui a vocation en effet à s'ancrer. Donc je ne ferai pas tout à fait le parallèle. Non, quand même.
La blague à part, là où sera le Rassemblement National, c'est qu'ils savent qu'ils y sont plutôt forts ou plutôt attendus. Vous serez... dans le match systématiquement ou...
C'est vraiment une décision qu'on prendra au cas par cas parce que nous, c'est une ligne rouge absolue en fonction des communes. Si on sait que le fait d'être candidat, même au premier tour, peut favoriser l'élection d'un maire Rassemblement National, on prendra nos responsabilités. Moi, je préfère qu'on ne se présente pas au premier tour dans ce genre de ville plutôt que d'aider et d'être un marchepied quelque part à l'élection du Rassemblement National. Par contre, je pense qu'il y a des combats à mener. On a un combat notamment à Perpignan. C'est pas un hasard si on a investi Romain Gros dès aujourd'hui. C'est un combat difficile, mais je pense qu'on a des combats aussi qu'on mérite de pouvoir mener et qu'on peut gagner.
Merci à tous les trois.
Merci.
Hélène Jouan, éditorialiste au service politique de la rédaction d'Europe 1, Aurore Berger, députée de La République En Marche des Yvelines et porte-parole d'En Marche, et Stéphane Zumsteg, directeur du département politique opinion chez Ipsos. Merci à tous les trois. C'était un premier point à 9 mois du scrutin, et vous l'aurez compris, jusqu'à 2022, nous serons en campagne électorale permanente. Finalement, c'est ainsi c'est le jeu de la démocratie. Hein. C'est le hasard du calendrier presque qui veut ça. 19h54, c'est l'heure de retrouver Lionel Rousseau. Bonsoir Lionel.
Bonsoir Mathieu.
Une belle soirée spéciale en vue avec France-Nigéria à 21h.
Et la soirée est toujours belle avec l'équipe de France féminine, les Bleus contre le Nigeria. Alors vous le savez, elles sont qualifiées pour les 8e de finale de la Coupe du Monde, mais les filles de Corinne Diacre veulent tout gagner et vaincre donc le Nigeria ce soir pour terminer notamment première du groupe. Et puis après, jouer un 8e de finale magnifique avec toujours cette liesse extraordinaire autour de cette équipe de France. Grand débat avant le coup d'envoi qui aura lieu à 21h sur notre antenne. Et puis on vous accompagne jusqu'à 23h30 pour le débrief. Donc effectivement, une très belle soirée.
Une très belle soirée avec vous, Lionel Rousseau, avec le service des sports de la rédaction d'Europe 1, avec Julien Froment au Roison Park et surtout avec les Bleus. France-Nigéria, 21h. Omblin, à demain.
À demain, merci
bon
Mathieu
match
Béliard.
Et allez les Bleus.
Allez les Bleus, évidemment. À demain, 17h. Et à tout de suite avec Isabelle Millet pour l'information sur Europe 1.
Europe 1.